Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être un lac des quais. C'est-à-dire une solitude qui rencontre une autre. C'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words have been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Encore Heureux. La Saint-Valentin approche. Lisons donc une nouvelle qui parle de divorce, de rupture, de désastre. Une nouvelle de Franck Courtès, écrivain et photographe, né à Paris en 64, auteur d'un recueil remarqué intitulé « Autorisation de pratiquer la course à pied ». Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Elle est partie et je l'ai quittée. La première fois que j'ai emprunté la route me conduisant à ma nouvelle maison de campagne, j'ai pris conscience que le paysage que je découvrais là me deviendrait quelques années plus tard intimement familier. J'observais les arbres, les villages, les fenêtres, des maisons. Plus jamais il ne me serait inconnu. Toutes ces choses reviendraient régulièrement, chaque semaine dans ma vie. Je les verrais sous la pluie, sous le soleil, sous la neige, à Noël, avec ma femme, mes enfants devenus grands, morts peut-être. Je serais tantôt gai, tantôt triste, riant, affamé et vieux un jour. À chaque sommet de côte, à chaque virage, je me mariais pour la vie avec une église, un bosquet, un chêne, un pont enjambant une rivière, un horizon. J'en avais le vertige de ce futur annoncé. Comment pouvais-je être si heureux de quitter Paris seul? De prendre la route comme un voleur, je volais du temps solitaire sur du temps conjugal. De solitaire, on glisserait vite vers égoïste. S'en suivraient les accusations, les condamnations. Ça aurait dû m'alerter, ce désir d'être seul. Ça aurait dû alerter ma femme, les amis, la famille. Oh, j'avais des excuses. Petit déjà, disait ma mère, toujours à s'isoler, avec une obsession, partir à la campagne tout seul. Comme les marins au large, vers cette ligne ennuyeuse vue d'ici, qu'on appelle horizon. À 14 ans, on lui a offert une mobylette. Il a fait la route, 80 kilomètres. Il vous a dit que c'était les plus beaux moments de sa vie ? Oui, soupirait ma femme. Il m'en a parlé. On me pardonnait parfois ma lubie, on lui trouvait du charme. Parce que la solitude, l'île déserte, c'est le frisson, les vertiges, on la regarde du pont, mais peu de gens quittent le bateau. C'est beau de loin, la solitude. Avant mes 45 ans, ma femme est partie et je l'ai quittée. Dès que je suis entrée dans cette sorte de club des hommes divorcés, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup autour de moi, comme les futures mamans voient des femmes enceintes partout. J'en ai entendu sur les femmes à partir de là des choses qu'on ne m'avait jamais confiées parce que j'étais en couple, du côté de l'ennemi. Tant pis pour moi. Leur résistance était discrète, je ne m'en étais pas aperçue. Des amis qui, mine de rien, attendaient que ça me tombe dessus, que j'ouvre les yeux tout seul, m'encourageant même à l'adultère. Moi qui n'avais jamais fait de sport d'équipe, pas fait mon service militaire, pas de politique, qui ne faisait partie de rien, ça m'a grisé un peu d'en être, de faire corps, d'imaginer un ennemi commun. Je n'osais pas demander « toutes » parce que ça serait devenu dangereux. Ils haussaient vite le ton, mes nouveaux compagnons, rongés par le fiel comme par un acide, que rien ne soulageait plus que de gratter encore la plaie. Leur fiel, ce n'était pas soignable, ce n'était pas un désordre mental, c'était plus proche du pus, de l'infection, la trace d'une profonde blessure. Il a suffi que je raconte ma rupture et ma souffrance pour qu'ils se libèrent d'un coup. Rien ne les étonnait, la femme c'était le diable, et je n'avais encore rien vu qu'ils me prophétisaient. Je ne savais pas quoi répondre à mes frères d'armes qui m'assaillaient de conseils, de mise en garde. C'était la fin du monde, le divorce. Mille exemples raffinés de vilainie féminine me tombaient dessus sans me laisser un instant pour poser une question et mettre un doute, une supposition. Et vous-même, rien à vous reprocher ? Je m'accrochais encore un peu à ma lucidité parce que moi, niveau conneries, je voyais très bien où j'en étais avec ma femme. Je pouvais les énumérer, en faire le compte et parfois même leur donner des prénoms. Ça faisait drôle, autant de brutalité venant d'hommes cultivés, mûrs, insoupçonnables de bêtises. Finalement, les femmes ne voulaient qu'une chose, détruire les hommes. Ça me faisait froid dans le dos parce que j'essayais très fort d'y croire, pour voir, par principe. J'entendais dire qu'il fallait reprendre la main sur elles, que notre domination les apaisait. Personne n'était heureux avec l'égalité des sexes. C'était le grand débordement hystérique, les conflits, le malentendu. Oh, la faute à nos mères ! Ça ne me réconfortait pas du tout qu'on étale cette haine des femmes devant moi. D'une, parce que je ne croyais pas que la colère de la mienne allait durer. Je l'avais connue et drôlement aimée, plus jeune, quand elle était merveilleuse avec moi, et j'étais sûre qu'elle le serait de nouveau un peu plus tard, la douleur passée. Et de deux, j'en aimais déjà une autre. J'avais replongé. J'étais retournée à l'ennemi. J'avais tout du traître, que je me disais. À peine au maquis et déjà collabo. Je n'osais avouer mon amour intact pour les femmes. Pauline, j'ai pensé. Ma femme, à l'entendre, avait bien souffert de ma conduite, de ne pas me plonger dans le sacrifice, de continuer à prendre autant de risques dans mon travail artistique, en voiture, dans presque tout. Elle m'a dit fou, vrai malade. Et puis de fou, on m'a déclaré romantique, parce que toute la famille s'y mettait. La condamnation dont on ne sort pas, le romantisme. Romantique un jour, romantique toujours. Vous avez beau faire, on ne vous prend plus au sérieux. Vous y replongez sans cesse, à la moindre faillite, au moindre découvert bancaire. Et au moment des vacances, quand le monde civilisé part se découvrir, curieux des autres en maillot de bain, on vous la fait bien payer, votre absence de prévoyance. Romantique, va, enfant, rêveur. Pourtant, ça lui plaisait bien ma bohème au début à ma jeune épouse. Seulement, il ne fallait pas que ça s'éternise. Elle me voyait Nobel, célèbre au minimum. Elle ne voyait ça qu'associé au succès, la vie d'artiste, comme ceux qu'elle découvrait dans les musées. Au musée, elle me voulait, mon ardente mariée, au mur, encadrée. Alors, quand la gloire et l'argent ne sont pas venus, je n'avais plus que mes yeux romantiques en vrai pour pleurer. Même si dans le fond, ça n'avait jamais été le but de ma vie, le succès. On avait du mal à imaginer ça, un artiste pas ambitieux. J'étais l'artiste incompris dans un sens. Pas celui qui fait des œuvres compliquées, qui est en avance sur son temps, mais celui qui fuit les galeries, les mondanités, les astuces, le téléphone par-dessus tout. Pas le bon genre. Elle me comparait alors, pour me donner un coup de fouet, à des amis accomplis, travailleurs, joyeux, créatifs. Puis elle finissait par m'en vouloir d'avoir le titre d'artiste, mais ni le salaire, ni les honneurs. À force de tout compter, mes heures à rien faire, mes pleurnicheries, mes hauts et mes bas, tout dans des carnets pour que je me rende bien compte, je me suis mis à vaciller pour de bon, et elle m'a emmenée chez un psy. Je me suis laissée faire, pas bien fière de moi, dans le fond. Ça l'a fait sourire, le mot « fou », le psy. Après, son sourire a disparu parce que je me suis mise à pleurer sur son fauteuil en velours. C'était bien agréable. Il m'a donné rendez-vous 3 fois par semaine. Je pensais que ma femme avait en partie raison. Il fallait être fou pour persister à être photographe en ces temps de crise. En revanche, j'étais sûre qu'il ne fallait pas l'être fou pour y parvenir. Ce n'était pas un métier d'avenir, certes, mais étais-je un mari d'avenir ? Ça me rassurait tout de même un peu de réussir à en vivre, de ce métier pas fiable, glissant, pluvieux. Ce n'était pas donné à tout le monde d'entretenir ce cirque depuis tant d'années. J'ai arrêté d'aller voir le psy. C'était triste de ne plus le voir. On ne pouvait pas rester copains, paraît-il. Aujourd'hui, ma femme qui est partie et que j'ai quittée est toujours là, dans ma tête. Surtout quand je fais les courses, parce que c'était son rayon, la santé. Un vrai docteur. On mangeait bien, peu, équilibré, pas sucré, pas gras, à la bonne heure. J'étais en forme, affûtée, je pouvais la remercier. Aujourd'hui, elle est là, derrière moi, qui surveille encore, je n'y peux rien. Je sens toujours la laisse, elle est là qui m'affirme que je vais me boucher les artères avec tout ce gras que j'engloutis désormais, que les hormones auront raison de mon pancréas par grignotage cancéreux. Elle a raison, je le sais bien, mais je n'ai plus la foi dans la santé, juste un peu peur des maladies parfois. Et puis je me gave de chocolat le soir devant les émissions de télé qu'on se plaisait à bouder, à mépriser au point que les enfants ne savaient même pas que ça existait. Autant de sottises, de métiers obscènes. Aussitôt après son départ, j'en ai eu tout mon soul de la solitude. À tous les étages, je l'avais, mon île déserte. J'allais de plus en plus à la campagne. J'évitais les week-ends à présent à cause des fantômes, ma femme et mes enfants, tapis dans les chambres, les couloirs, un vrai cache-cache. Et je ressassais le manque, les enfants, mes devoirs pas finis. Certaines portes restaient fermées, la porte de la chambre des enfants d'abord, mais aussi la grange, où ma femme avait installé un petit atelier de bricolage. Elle avait la passion de la construction. La porte de l'armoire de son côté, le tiroir de la commode avec ses foulards encore là, le tiroir du haut dans la salle de bain avec ses produits de beauté périmés, des tampons que je n'arrive pas à jeter et que je ne peux tout de même pas donner. Il ne me restait plus tant de place que ça avec mes portes fermées. Mon horizon ne s'était pas agrandi comme il aurait dû. J'ai fini par aménager deux pièces dans ma maison, j'ai laissé tout le reste aux fantômes. J'ai compris que ce que j'aimais par-dessus tout avec cette maison hantée, c'était de m'y rendre, de parcourir les 110 kilomètres. Le chemin pour y aller me plongeait dans un état d'excitation incomparable. J'aimais me préparer, me chronométrer, me sentir libre, presque disparu. Ni ici, ni ailleurs, entre les deux, dans le rêve. Je redevenais tout à fait l'enfant sur la mobilette à ce moment-là. Une liberté pas rayonnante, pas racontable. La Nationale 3, mot, la Ferté-sous-Jouarre, vous parlez d'une aventure. Pourtant, quand je filais la nuit par la porte de Bagnolet en damar et doudoune, trois paires de chaussettes, moi si coquet d'habitude, j'avais cette impression de libération totale, intégrale, d'allègement miraculeux. Ça me soignait. Et quand je m'arrêtais plus loin sur la longue route sans personne, regardant les étoiles glacées au-dessus de ma tête, aucun grand désert du monde ne m'aurait donné plus de joie. C'était aussi le seul moment où ma femme était absente de mon esprit, où son départ et son absence m'étaient le moins douloureux.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
À force de partager ces moments de bonheur avec lui, j'ai fini par lui parler à mon engin, mon deux roues, à lui donner un nom, à lui caresser la croupe comme à un cheval. C'est à l'odeur que je la reconnaissais, ma campagne. Pas à celle des sous-bois, de l'herbe mouillée ou du foin coupé, non, à l'odeur des engrais. Le fumier enrichi, le phosphate, l'azote, les fertilisants, toute cette permission de puer, impensable en ville, délimitait pour moi les vraies zones de liberté. Ces lieux sans le regard des autres, je ne les trouvais que là, au milieu des champs pollués et sauvages d'Île-de-France. Pas de tourisme, pas de randonnée, la vraie zone obscure, pas encore mise en lumière. Ces odeurs de mon enfance, pourrais-je dire, je préfère ne pas savoir de quoi elles sont faites. C'est très loin du parfum de la Madeleine. Et puis, au milieu d'hommes et de femmes, pas trop complexés par la télévision, pas ouverts d'esprit universellement, ignorés, vaguement craints, même si l'égalité avec la ville gagnait du terrain, avec ses désirs de trottoir, de sécurité en tout, de lumière enfin, même si les intérieurs modernes proliféraient, confortables, résonnant avec le monde, chinois au bout du compte, à renouveler chaque année au gré des modes venues de pas si loin, des bureaux d'études de Castorama, le roi Merlin, et j'en passe. La déco. Au village, les fantômes se réfugiaient chez moi. J'avais la place, pensée. Celui de ma femme m'attendait derrière la porte d'entrée. Je faisais mine de l'ignorer. Le soir, en sortant pisser au jardin, dans la rosée, je la voyais à la fenêtre. J'aimais ce vide, cet ennui autour de moi. Je me dépêchais d'en profiter. On le remplirait forcément un jour. Personne n'aime ça, l'ombre et le silence. Au bout du village, c'était la campagne où l'on disait qu'il n'y avait rien. Combien de fois ai-je entendu dire d'un terrain bâti qu'il n'y avait rien ici, avant ? Il y avait pourtant tout, des arbres, des prés, des insectes, de l'eau, des bruits dans la nuit à vous faire dresser les poils. Rien ? Et l'espace libre ? Alors des espaces de tout, espace beauté, espace détente, espace loisir. Comment pouvait-on vouloir détruire l'espace, espace ? Un lieu précieux, ni géré, ni surveillé, pas javelisé, où l'on sentait bien l'espace, justement, la vie sans nous, où l'on pouvait encore se croire individu unique, où l'on pouvait voir l'invisible. Je repense aux bienveillants efforts de ma femme pour construire, bâtir, échafauder sur mes terrains vides, en friche, fragile, laissés sans surveillance dans mon enfance, où l'enchevêtrement de plantes, de lianes, de feuilles mortes, tout un réseau de fibres sensibles, solidaires les unes des autres, formait le socle de ma personnalité. Embrouillée, inflammable, mais qui ne prenait pas l'eau finalement, qui résistait bien aux orages, et cependant trop instable pour y accueillir un foyer. C'est souvent le cas dans les couples. On appuie trop fort sur l'autre, on croit le conjoint solide, on s'étend un peu, on s'appuie et c'est la bascule, la chute. Je n'étais pas un terrain constructible. On s'en est aperçu trop tard. Ma vie domestique a tenu bon des années durant en dehors de ma nature, mes manières d'enfant roi, de héros fantoche, de rêveur grotesque. Mille façons de ne plus être gentil sont apparues au fil du temps. Mais, fidèle au poste, déserteur de l'intérieur, rongé, sonnant creux, ravagé de manie, fatigué, pas courageux, aveuglé, c'est pareil. Ma femme est partie et je l'ai quittée. La délicatesse et la force que ça demande, que ça réclame, une femme. On est rarement à la hauteur, faut bien l'avouer. Cette force qu'on s'imagine ne plus avoir, nous les hommes tombés une fois, découragés. Et puis qu'on retrouve intact, encore là finalement, quand une nouvelle femme pointe son nez. Mais méfiant tout de même, l'homme divorcé, ensauvagé à force d'avoir tiré sur la laisse. Je n'allais pas le rater, celui-là, d'amour. Je n'allais pas faire d'erreur. Je n'allais pas cacher mes déserts, mes absences. Je n'allais pas rentrer la tête, rire et mentir tout à la fois. Fini, enterrer mes envies de mieux en terres étrangères. J'allais y retourner à ma nature, comme on rentre au port. Parce que ma nature, j'ai voulu la contrarier, la faire plier à mes faux rêves d'ailleurs. L'aventure, c'est bien joli, ça mène loin, je suis d'accord, mais qu'on en croise des malheureux là-bas, au large. Moi, l'aventure, je l'ai voulu très loin de moi, parce que dans le fond, je me détestais, et que je voyais en ma femme un magnifique voilier pour prendre le large. Et puis, j'ai vite eu le mal de mer. L'envie du retour. Je n'étais plus du tout celui qu'elle avait aimé, ma femme horizon. Trop contrariée dans mes petits réglages, la mécanique s'était emballée, enrayée. Je n'avançais plus droit du tout. Ça lui faisait bien de la peine. Elle est partie et je l'ai quittée. Je suis retournée à l'ombre, à l'isolement. N'allez pas me parler d'ennui, de vide. Le soir, je sors au jardin désert, aux mille bruits étranges. Pauline, je dis. We'll be right back. Chers amis auditeurs, merci. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes les émissions d'Encore Heureux sur notre site. Je vous dis à très bientôt sur Radio B et je vous souhaite une excellente Saint-Valentin.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être un acte d'équilibre. C'est-à-dire que, une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words have been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.